Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi, sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Barthélémy Gaillard, merci Margot Le Ridon, Bertie Bourdon et Clément Perrier, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Deuxième volet de notre série consacrée au nouvel âge du nucléaire, après nous être intéressés hier aux négociations et rapports de force engagés avec l'Iran et la Corée du Nord, avant de nous pencher sur la course aux armements sino-américaines, puis sur la menace atomique russe à proprement parler, place aux États européens en proie à des questionnements sur leur stratégie nucléaire, qu'il est plus urgent que jamais d'affronter, compte tenu évidemment des menaces proférées par le voisin russe. Europe, le tabou de la dissuasion, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
La mission des forces armées, c'est d'abord d'empêcher la guerre, en montrant à un agresseur éventuel qu'il n'aurait rien à gagner en s'attaquant à la France ou à ses alliés. C'est ce qu'on appelle la dissuasion.
Il n'est pas courant que le commandement des forces aériennes stratégiques vienne à ce pupitre. Cette discrétion est plutôt, à mon sens, un signe de bonne santé de la dissuasion nucléaire. Nos concitoyens ont confiance en elle. Et cette confiance a pour socle l'assurance de souveraineté qu'elle représente et l'extrême fiabilité des dispositifs de sûreté nucléaire qui l'entourent.
La dissuasion est complètement dépassée. On a pu interdire les armes chimiques, on a interdit les armes bactériologiques. Maintenant, il est temps d'interdire les armes nucléaires. Et il faut que l'Europe soit leader pour que ça soit une zone exemptée d'armes nucléaires.
Dans l'ordre, un extrait d'une allocution de Pierre Messmer, alors ministre des Armées, qui expliquait ce que signifie la dissuasion nucléaire. Ensuite, deuxième voie, celle de Pierre-Jean Dupont, général de division aérienne et commandant en seconde des forces aériennes stratégiques, assurant que la dissuasion nucléaire est à la fois sûre et plébiscitée. Et puis février 2019, l'eurodéputé Michel Rivasi affirmant l'inanité de la dissuasion nucléaire suite à une action menée dans un dépôt d'armes nucléaires américaines en Belgique. Face à la menace nucléaire brandie par la Russie, les États européens sont renvoyés à leurs propres questionnements quant au principe de dissuasion. Que les États soient personnellement dotés de la bombe comme la France ou placés sous le parapluie atomique des États-Unis, la dissuasion demeure une pièce maîtresse du dispositif de défense continentale. Au niveau de son efficacité stratégique comme de sa légitimité démocratique, elle est néanmoins discutée, voire même remise en cause parfois, notamment dans le cadre de la prochaine réunion des signataires du traité sur l'interdiction des armes nucléaires de Vienne qui aura lieu le 22 mars prochain. La dissuasion nucléaire rend-elle vraiment le monde plus sûr? Sur quel présupposé cette dissuasion repose-t-elle? Comment les États du vieux continent peuvent-ils concilier ce principe avec l'impératif démocratique? Qu'est-ce que les histoires atomiques françaises et britanniques notamment nous disent du rapport de ces deux pays dotés de la bombe à cette question? Pour évoquer tous ces enjeux, nous avons invité ce matin Benoît Pélopidas. Bonjour Benoît Pélopidas.
Bonjour Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur associé aux séries Sciences Po, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires, Nuclear Knowledge, à Sciences Po, qui se présente comme le premier programme universitaire indépendant et transparent sur ses sources de financement. Et vous êtes également chercheur associé à l'université Stanford. Vous venez de signer cet ouvrage très intéressant, je le dis tout de suite, Repenser les choix nucléaires aux éditions des presses de Sciences Po, qui remettent en cause un certain nombre d'idées reçues que nous avons sur le nucléaire et sur la dissuasion. Évidemment, Benoît Pélopidas, depuis la publication de votre livre, l'actualité nous a rattrapés très vite et très fort. Je voudrais qu'on commence peut-être avec cela. La dissuasion, elle se fonde sur une crainte réciproque des conséquences liées à l'emploi de la bombe atomique. Alors même si on dénonce le principe, si on peut nuancer les effets bénéfiques que l'on met très souvent en avant, notamment durant la guerre froide, où, dit-on, cette dissuasion aurait garanti un certain équilibre de puissance. C'est quelque chose que vous nuancez, on va revenir sur ce principe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le propre de la dissuasion, c'est que c'est une doctrine défensive. Ce qui est en train de se passer maintenant a quelque chose peut-être de nouveau, c'est que lorsque Vladimir Poutine menace de faire usage du feu nucléaire, avant même d'avoir été attaqué, avant même que les Occidentaux n'aient bougé le petit doigt, il fait, en tout cas dans sa rhétorique, de cet outil, l'arme nucléaire, un outil offensif. Que vous inspire ce retournement des choses? Est-ce que vous pensez que ça change fondamentalement la donne dans la manière dont nous appréhendons cette logique de dissuasion, Benoît Pelopidas?
Bien, dans la pensée stratégique, on oppose classiquement la logique de la dissuasion à la logique de la coercition. C'est-à-dire que il faut d'abord observer que les deux sont des pratiques de la menace qui ont pour but de produire un effet. L'effet dissuasif, c'est littéralement d'empêcher l'ennemi ou l'adversaire de faire ce qu'il avait l'intention de faire. Et la pratique de la coercition, c'est de le forcer à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait par ailleurs. Donc en un sens, si Vladimir Poutine en effet escalade et pratique ce qu'on peut appeler la sanctuarisation agressive, la menace qui est proférée est une menace qui a pour, semble-t-il, intention de dissuader les États occidentaux de rester en dehors du conflit ukrainien. Donc, du point de vue du dirigeant russe, l'objectif, c'est un objectif d'escalade et un objectif de dissuasion. Il n'y a pas d'objectif de forcer les Occidentaux à faire quelque chose. Il y a un objectif de dissuader les Occidentaux d'intervenir dans le conflit ukrainien.
Vous expliquez très bien dans votre livre que la dissuasion repose sur deux promesses. La première, c'est qu'une attaque est possible, toujours possible, en cas d'agression. Mais l'autre bout, c'est que on ne vous attaque pas si vous n'avez pas touché à mes intérêts. Le jeu de la dissuasion, écrivez-vous, c'est de tenir ces deux promesses à la fois. Est-ce qu'on peut croire Poutine sur le deuxième volet de la promesse? Jusqu'où est-ce qu'on peut être sûr qu'il ne va pas agresser un pays tiers sans raison claire, explicite, objective?
Alors, vous savez, l'objet de ce livre, c'est vraiment d'établir de la connaissance établie et prouvable. Et le point de départ, c'est vraiment ce que j'appelle la vulnérabilité épistémique, c'est-à-dire le décalage entre ce qu'on veut croire et ce qu'on arrive à prouver. Donc, sur la psychologie de M. Poutine, je ne me prononcerai pas. Par contre, ce qu'on peut établir de manière claire, c'est que le décalage que vous pointez, c'est aussi la question de la possibilité de l'escalade accidentelle, de la perte de contrôle sur l'arsenal ou des erreurs d'interprétation. Et ça, on en reparlera, mais je mets en avant un certain nombre de possibilités. Le premier type de possibilité, ce serait des rencontres entre des forces russes et des forces de l'OTAN. Et une deuxième possibilité, c'est littéralement ce qui pourrait se passer autour des centrales nucléaires encore en activité sur le sol ukrainien.
Oui, et puis par ailleurs, ce que vous dites aussi, c'est que la dissuasion, elle repose sur un autre principe, c'est qu'il faut avoir en face de soi un acteur qui est dissuadable. Sans parler de Poutine lui-même, il faut aussi qu'on soit dans une logique où on a un acteur dissuadable en face de soi.
Absolument. Et là justement, vous touchez à un point essentiel, c'est-à-dire de la même manière que quand on produit un effet dissuasif, enfin quand on produit un résultat dissuasif, c'est-à-dire qu'on voit que l'adversaire ne fait pas quelque chose, il faut pas trop vite inférer que cet effet dissuasif aurait pour cause la partie nucléaire de la menace. Ça peut être une partie non nucléaire de la menace, ça peut être une menace conventionnelle qui a suffi à produire l'effet dissuasif. Et de la même manière, il faut pas tomber dans le piège de supposer que tout adversaire est dissuadable. En fait, la question, si on veut parler de dissuasion, plutôt que de faire le raccourci de dire dissuasion veut dire armement nucléaire et c'est tout, il faut systématiquement se demander dissuader qui, de faire quoi, avec quels moyens, et se demander si l'autre, justement, est dissuadable ou pas.
Justement, on reviendra peut-être un peu en arrière, et on regardera l'histoire pour peut-être trouver des exemples qui nous permettent d'étayer tout cela et de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, si je puis dire. Mais je poursuis un tout petit peu sur l'actualité, Benoît Pelopidas, et puis ensuite on rentrera peut-être plus au cœur des thèses que vous développez. Quand on regarde ce qu'il a été opposé à Vladimir Poutine lorsqu'il a brandi la menace nucléaire, regardez par exemple du côté du ministre des Affaires étrangères français, on a expliqué avec, disons, clarté mais sans en faire beaucoup, on a rappelé que l'OTAN aussi était composée de puissances nucléaires et que notamment la France disposait de cette capacité. Est-ce qu'il vous semble que c'est la bonne réponse? Parce que la question, c'est celle de la bonne rhétorique à opposer à l'acteur qu'on a en face de soi. Est-ce qu'il faut effectivement menacer à son tour de l'usage du feu nucléaire ou au contraire rappeler un principe très fort qui est que si en face de vous, l'acteur n'utilise pas ladite arme, eh bien, de son côté non plus, on n'y touchera pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a deux voies. Il y a la voie de l'escalade et celle de la désescalade verbale.
Vous l'avez dit, il y a exactement deux voies. La logique de l'escalade dans la rhétorique nucléaire, d'abord, ne me paraît pas bienvenue face à un acteur tel que celui-là, parce que justement, ça alimente l'escalade. Et c'est frappant de voir que des commentateurs qui sont par ailleurs dans le camp des faucons en France sont d'accord pour dire que c'est pas une voie souhaitable, mais aussi les meilleurs spécialistes de la Russie tels que Pavel Podvek ont vraiment insisté sur le fait que non, il fallait sortir la menace et la posture nucléaire de la discussion avec l'acteur russe, parce que ça ajoute du risque, alors même que là on est dans une situation où, pour l'instant, les États de l'OTAN ne disent pas qu'ils vont envoyer des troupes. Faire de la posture nucléaire, c'est faire une promesse de représailles qui suppose que nos intérêts vitaux sont engagés dans le conflit. Donc on peut pas à la fois faire ça et en même temps ne pas engager nos intérêts vitaux dans le conflit. Il y a une espèce de d'incohérence. Ou alors, je sais pas du tout lequel des deux est là, mais ça peut être aussi une confiance excessive dans le fait que tout ça n'est que de la posture et n'a pas de conséquences. Et ça, à mon avis, ce serait une erreur.
Alors Benoît Pelopidas, l'idée généralement partagée, c'est que la dissuasion a été efficace. Regardez l'histoire, nous disent les partisans de la dissuasion. Regardez la guerre froide. Cette dissuasion a permis d'éviter la guerre à maintes reprises. Dans votre livre, très clairement, vous nuancez à tout le moins l'efficacité supposée de cette dissuasion. Quels sont les exemples historiques qui nous montrent que effectivement cette dissuasion nucléaire n'a pas permis la guerre, soit n'a pas été décisive dans l'évitement de la guerre?
Alors, bon, c'est évidemment une question très longue, et là, sur ça, je renvoie vos auditeurs à la lecture de l'ouvrage, parce que je vais pas pouvoir lui faire justice, je vais vous répondre à votre question de manière très concise.
Mais qui est centrale, parce que ça pose la question de l'efficacité de la dissuasion.
Bien sûr. Mais ça pose aussi la question de, encore une fois, dissuader qui de faire quoi? C'est pas la même chose de dire est-ce qu'elle a dissuadé de l'emploi d'armes nucléaires que de dire est-ce qu'elle a dissuadé systématiquement de la guerre. Si on parle de possibilité de frappe nucléaire supposée dissuader de guerre, eh bien on a depuis les années 40 jusqu'aux années 90 un à deux exemples par décennie de puissances conventionnelles qui ont entamé des guerres contre des puissances nucléaires qui, de fait, n'ont pas été dissuadées. La guerre de 73 est le cas classique, la guerre des Malouines, vous pouvez penser aussi à la première guerre du Golfe et à la menace voilée des États-Unis face à l'Irak. Vous avez toute une liste et ça commence dans les années 40 avec le blocus de Berlin. Donc on a un certain nombre de cas où, justement, la menace nucléaire ne dissuade pas de tout. Mais on s'est enamouré de l'idée que cette menace nucléaire était systématiquement efficace et n'avait pas d'effet autre que son efficacité. Or, on peut montrer qu'en fait, la menace nucléaire au début de, par exemple, de la crise de Cuba a des effets d'escalade. C'est-à-dire, comme toute autre politique publique, la politique publique de gesticulation nucléaire a parfois des effets désirés, parfois pas d'effets, et parfois des effets indésirables. Mais ce qui est spécifique dans la rhétorique habituelle, c'est qu'on suppose que cette politique-là n'a pas d'effets indésirables, ce qui est étrange.
Dans ce que vous développez, Benoît Pelopidas, vous expliquez que parmi ce que vous considérez comme des illusions de la dissuasion, il y a une illusion qui serait celle du contrôle sur les événements. Vous avez, vous, réfléchi à la part de chance, je mets des guillemets, dans les situations où la dimension nucléaire était en jeu. Oui. Qu'est-ce que vous appelez la chance, justement, dans ce genre d'événement, quand on parle de relations internationales, quand on parle de mécanique conflictuelle? À quelle occasion elle a été décisive? Et en quoi est-ce qu'il faut prendre en compte, justement, cette chance, une fois encore, je mets des guillemets, parce qu'il va falloir nous l'expliquer, quand on construit des politiques nucléaires sur le long terme, comme le font les États?
Alors, la bonne nouvelle que je peux vous apporter, il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui malheureusement, c'est que vous pouvez enlever les guillemets. Parce que précisément, jusqu'au moment où mon équipe s'est occupée de cette question de chance, on faisait un certain nombre d'erreurs dans la façon dont on l'a pensé. C'est-à-dire que depuis les années 60, vous avez un nombre substantiel d'acteurs politiques américains, britanniques, russes, qui disent « nous avons eu de la chance », non pas systématiquement, non pas à chaque fois, mais dans un certain nombre d'épisodes clés de l'âge nucléaire. Eh bien, à partir de là, ces affirmations, il faut les prendre au sérieux. Pourquoi ? Parce que les acteurs politiques en question n'ont pas intérêt à affirmer ça. En fait, ils se rendent ils donnent une image d'eux-mêmes comme étant moins en situation de contrôle, donc il fallait être en mesure d'évaluer le rôle de la chance. Et systématiquement, on commettait deux erreurs. La première erreur, c'est de dire que ce facteur chance, il est non mesurable, et donc on va faire comme si on ne pouvait pas le mesurer, et donc comme s'il n'avait aucun rôle. C'est pas parce qu'on ne sait pas encore le mesurer qu'il faut en déduire qu'il n'a aucun rôle, ce serait une première faute. La deuxième faute, c'est simplement de dire « ah, mais c'est une erreur de diagnostic, ce qui est dû à la chance, c'est en fait dû au professionnalisme et à la qualité du contrôle que nous avons exercé sur ces armes ». Donc le propos de mon travail, c'est précisément, un, de produire une définition distinctive et de dire « voilà, on doit pouvoir distinguer les cas où l'issue favorable des crises nucléaires est causée par le contrôle et par le transfert adéquat de l'information, des cas de chance, et là j'arrive à la réponse à votre question, du coup vous avez trois cas de chance qui sont des cas où littéralement le contrôle n'aurait pas pu expliquer l'issue favorable. Donc vous avez un cas de chance qui est qu'on a évité l'explosion du fait d'un facteur qui est indépendant des pratiques de contrôle, ou alors on a évité l'explosion grâce à la défaillance d'au moins une des pratiques de contrôle. Et enfin, troisième modalité, on a évité l'explosion en dépit de la défaillance d'au moins une des pratiques de contrôle. Ça, c'est la définition. Et après, il faut évidemment aller faire un travail d'archives que nous avons fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pour aller documenter ces cas, et c'est documenté en détail dans le livre.
Mais vous pouvez peut-être nous en donner un particulièrement notable ?
Je vous en donne un, si vous voulez, mais... Mais la chose qu'il faut garder en tête, si vous voulez, le cas le plus frappant de chance, c'est précisément la crise de Cuba et le rôle d'un acteur tiers qu'on appelle Vassili Arkhipov, qui est sur un sous-marin en fait à Cuba, et à ce moment-là, les Américains ne savent pas qu'il y a quatre sous-marins soviétiques autour de Cuba qui sont tous porteurs d'une torpille à tête nucléaire de 10 kilotonnes. Et si vous voulez, les États-Unis, pour garantir le blocus autour de l'île, larguent des grenades pour forcer les sous-marins à faire surface. L'un de ces sous-marins fait effectivement surface et se fait mitrailler depuis les airs, donc repart en plongée. Et dans le cadre de ce protocole-là, eh bien, il est prévu que, en cas d'attaque de l'ennemi, eh bien, vous pouvez causer à l'ennemi le plus de dommages possible. Et donc, le commandant Arkhipov est le troisième dans la chaîne de commandement et finit par dire non, je refuse de tirer, alors que tout était prévu pour qu'il le fasse. Donc là, vous avez un cas, si vous voulez, de désobéissance, ou en tout cas d'autonomisation d'un acteur qui aurait dû simplement obéir. Mais encore une fois, il y a toute une liste. Mais le point central de ça, si vous voulez, c'est que ce qui vous paraît bizarre dans mon appellation chance, d'abord, ça devrait pas l'être, parce que jusqu'à présent, on avait un décalage entre l'idée qu'on avait du contrôle et ce qu'on pouvait prouver. C'est simplement qu'on n'avait pas développé la méthode pour évaluer le rôle de la chance, donc on se berçait d'illusions et on continuait de croire ce qu'on avait envie de croire. Et le deuxième élément, c'est que mon évaluation de la chance est très probablement une sous-estimation, pour une raison très simple, qui est qu'elle dépend de la transparence des États dotés sur leur passé nucléaire. Donc vous voyez bien, c'est pas du tout un hasard que mes études de cas soient essentiellement sur les États-Unis et sur le Royaume-Uni, un petit peu maintenant sur la France, mais ça manifeste que tous les autres États nucléaires sont extrêmement opaques, donc il est très 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 peu probable que dans l'histoire nucléaire des six autres États dont on parle, il n'y ait aucun cas de chance.
Sur la question de la transparence, justement, l'une des thèses de votre livre, c'est de dire, document à l'appui d'ailleurs, document et archives à l'appui, que la politique de dissuasion nucléaire française a longtemps reposé sur un mensonge. Vous expliquez en particulier que jusqu'à 1974 au moins, on a laissé penser qu'on avait des capacités supérieures à ce qu'elles étaient réellement. Peut-être qu'on reviendra sur ce point, mais je voudrais poursuivre Benoît Pelopidas, parce que force est de constater que malgré l'efficacité très nuancée que vous venez de nous rappeler de la dissuasion, il est très difficile, en tout cas en France, de s'interroger sur la logique de dissuasion, parce que on va forcément vous opposer à un certain nombre d'arguments, ce qu'on oppose toujours à ceux qui veulent discuter la dissuasion, c'est que manifester du scepticisme sur la dissuasion, c'est faire le jeu de l'adversaire. Je reprends une formule que vous reprenez vous-même dans l'introduction de votre livre, d'un célèbre stratège français, en l'occurrence Lucien Poirier, un ancien général, théoricien de la dissuasion, qui avait beaucoup œuvré justement pour élaborer cette doctrine française de la dissuasion dite du faible au fort. D'où vient cette impossibilité d'interroger la dissuasion en France et comment se fait-il que, depuis tout ce temps que nous disposons de la bombe en France, eh bien, il est toujours aussi difficile, voire impossible, de mettre en question ce principe, Benoît Pelopidas?
Alors, si vous, je m'attendais pas du tout à être Monsieur Bonne Nouvelle ce matin, mais si vous permettez, je vais renverser votre question. Et je vais vous dire, en fait, qu'il suffisait de faire deux choses pour pouvoir, non pas mettre en question au sens de affirmer une opposition ou être un provocateur, mais non, il suffisait de faire deux choses pour pouvoir opérer une évaluation distanciée et impartiale des effets d'une politique. Et ces deux choses, ce sont les deux piliers sur lesquels s'appuie le programme d'études des savoirs nucléaires, c'est-à-dire d'abord s'écarter complètement de toute forme de conflit d'intérêts, donc refuser le financement des acteurs de la défense et des fabricants de l'arsenal, mais aussi des activistes antinucléaires, et d'un autre côté, mettre en place, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la chance, mettre en place le dispositif méthodologique qui permet de poser les questions, c'est-à-dire sur la chance, littéralement, on n'était pas en mesure de poser la question parce qu'on n'avait pas établi la bonne définition, on n'était pas allé chercher dans les bonnes archives et on supposait qu'il n'était pas possible de faire de recherches contrefactuelles. De la même manière, sur la crédibilité de la première génération de la force de frappe, le résultat auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, on se contentait trop facilement des évaluations françaises. Quand on va voir ce que nous avons fait avec mon collègue Sébastien Philippe, c'est d'aller voir précisément les archives britanniques, américaines et certaines archives soviétiques, mais aussi de combiner ça avec une évaluation technique de ce que pouvait faire la force de frappe. Eh bien, en faisant ces gestes méthodologiques élémentaires, on peut trouver ces résultats. De la même manière, Sébastien et son co-auteur Thomas Status ont publié l'année dernière Toxique, qui remet en cause le discours officiel sur les effets des essais nucléaires en Polynésie.
Donc, j'entends bien, mais malgré ces résultats que vous avez trouvés, Benoît Pelopidas, il n'y a pas dans l'espace public de débat autour de la question de la dissuasion. Il n'y a pas non plus de responsable politique qui porte le projet de dénucléariser la France. On est clairement face à un tabou.
Alors, je vais répondre à ça juste parce que vous voyez, vous dites dénucléariser la France. Mais et en fait, le débat n'a pas du tout besoin d'être posé en ces termes-là. Ce que j'essaye d'avancer à la fin du livre, c'est vraiment de dire le but, c'est de recréer un espace pour poser la question simple. Quel système d'armes nucléaires et non nucléaires pour quelle politique de défense à très long terme? La question, à partir du moment où on la pose en termes binaires de c'est le statu quo ou la dénucléarisation unilatérale, ça, c'est un des moyens, si vous voulez, qui empêche de faire avancer la réflexion. Un deuxième élément, là, et là je réponds plus directement à votre question sur les obstacles. Un deuxième élément...
Pardon, mais je vais être un peu binaire aussi, Benoît Pelopidas. Il y a quand même un moment où l'arme nucléaire, on l'a ou on l'a pas. C'est 0 ou 1, c'est binaire.
Ah non, ça ne l'est pas.
Ah bon?
Mais bien sûr que non, parce que... Prenez,
vous pouvez avoir exemple, une demi-arme nucléaire.
Non, vous êtes de bonne humeur ce matin. prenez le cas britannique. Dans le cas britannique, vous avez un système d'armes nucléaires qui repose exclusivement sur des sous-marins. Dans le cas français, vous avez un système d'armes nucléaires qui repose sur des sous-marins, mais aussi sur une composante aérienne. Vous pouvez aussi avoir un système d'armes nucléaires qui repose sur des sous-marins, une composante aérienne et une composante terrestre. voyez, on peut tout à fait discuter de postures très différentes, de systèmes d'armes très très différents. C'est pour ça, on n'a pas du tout besoin d'être binaire.
Il n'empêche, pour mon humeur du matin, Benoît Pélobidas, mais force est de constater que ces questions que vous posez d'ailleurs différemment, vous le dites, vous avez raison, elles ne sont pas posées. Elles ne sont pas posées dans l'espace public, elles ne sont pas posées dans l'espace parlementaire. Une fois encore, je répète ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est tabou.
Alors, oui, enfin, je sais pas si je veux appeler ça tabou, mais vous avez raison. Mais,
c'est vous-même, Benoît Pélopidas, qui expliquait qu'il y a eu un rapport du Sénat en 2017 qui expliquait qu'il fallait avoir un vrai débat sur ce sujet. Forcément, de constater que depuis, il n'a pas eu lieu. On est 5 ans après.
Oui, enfin, si vous voulez, le propos, c'est simplement d'observer que les blocages qui empêchent la discussion claire sur la question que je viens de poser, c'est-à-dire quel système d'armes pour quelle politique de défense à long terme, on peut les identifier et ils sont en fait, ça pour le coup c'est directement connecté, ils sont identifiés dans le livre. C'est-à-dire, si vous supposez que l'histoire de l'âge nucléaire est une histoire du contrôle parfait et que du coup vous n'êtes pas au courant du rôle de la chance, si vous supposez que l'histoire de l'âge nucléaire c'est l'histoire de la prolifération horizontale qui est une loi inamovible et que donc tout ce que vous pouvez faire c'est naviguer cette loi-là, si vous supposez ce qui est répété tout le temps et démontrablement faux, qu'il y a consensus en France sur la politique nucléaire, et si vous supposez enfin que les experts qui prennent la parole sur le sujet vous permettent de discuter la question, eh bien vous arrivez à ce sentiment d'inévitabilité de la politique qui est conduite. Et l'objet vraiment de mon livre, c'est de montrer que ces quatre arguments qui produisent l'inévitabilité de la politique conduite sont inexacts. C'est-à-dire il y a une marge de choix, et cette marge de choix, on peut la réouvrir. Et justement, c'est ce que j'appelle désacraliser sans conventionnaliser les armes nucléaires. C'est-à-dire, il faut pas du tout les traiter comme des armes ordinaires et comme des armes comme les autres. Mais par contre, il faut être en mesure de les traiter comme des moyens au service d'une politique de défense. La chose qu'il faut que j'ajoute et que j'aurais dû vous dire plus tôt, c'est que c'est d'autant plus important que les choix industriels, je pense à ce qu'a dit notre ministre des Armées, Madame Parly, en février dernier, elle parlait de la troisième génération de sous-marins nucléaires qui vont naviguer jusqu'en 2090. Donc on parle de politique industrielle qui nous engage à très très long terme. Ouais. Donc il est essentiel d'être capable d'envisager un paysage stratégique sur 70 ans et de se poser la question, voilà, quelles sont les formes d'ennemis? Est-ce que ces formes d'ennemis vont être dissuadables avec des armes nucléaires ou pas? Et d'arriver à clarifier les arbitrages. Et la raison pour laquelle je vous embêtais tout à l'heure avec la question de l'indépendance et de la clarté méthodologique, c'est que c'est précisément en évitant les pièges classiques du discours expert, c'est-à-dire de reprendre les catégories du discours officiel et de les traiter comme des catégories d'analyse, qu'on permet d'ouvrir l'espace. Il faut reposer la question de la chance, reposer la question de l'opinion publique, reposer la question des causes de la prolifération, et là, on va pouvoir ouvrir le débat.
Justement, l'opinion publique, vous l'avez un tout petit peu effleuré, parce que parmi les illusions de la dissuasion, il y a cette idée qu'il y aurait un consensus démocratique. Or, précisément, ça, vous le déconstruisez, cette idée. Vous la déconstruisez, cette idée, très clairement dans votre livre. Quels sont les éléments un peu factuels, scientifiques, qui nous permettent de dire qu'il n'y a pas, en réalité, de consensus autour de la possession de l'arme atomique?
Alors,
donnez-nous quelques éléments.
Oui. Je vais vous en donner trois. Le premier élément, c'est juste de revenir sur les données dont on dispose, à partir desquels l'argument du consensus est répété. En fait, ces données, ce sont des sondages conduits par la DICOD, c'est-à-dire le volet communication du ministère des Armées. Et c'est un sondage qui est intéressant, mais qui en fait incorpore comme postulat tous les postulats de la politique de dissuasion française. C'est-à-dire, on suppose que la dissuasion nucléaire, effectivement, est efficace, que la dissuasion conventionnelle ne l'est jamais, que la posture est strictement suffisante, qu'il n'y a aucun risque. Et donc, une fois qu'on a incorporé dans la question tous ces postulats-là, on demande aux sondés, est-ce que vous êtes favorable à la politique ou pas ? en ne proposant pas d'alternative. Donc c'est totalement défaillant, si vous voulez, comme méthode de sondage. Donc une fois qu'on montre cette défaillance, ce qu'il a fallu faire, qui est très simple, c'est simplement de refaire un sondage en distinguant, en rendant possible plusieurs types d'attitudes et en évitant justement d'incorporer ces postulats. Et en interrogeant en fait les citoyens français sur les postulats, sur les engagements que l'État attend d'eux. C'est-à-dire, en tant que citoyen dans un État doté d'armes nucléaires, l'État attend de nous, par exemple, que nous payions nos impôts pour financer l'arsenal, que nous acceptions que notre pays est une cible parce que c'est le jeu de la dissuasion face à un adversaire avec un arsenal nucléaire de grande taille. Et enfin, il attend de nous que nous remettions au chef de l'État la possibilité d'appliquer la doctrine en notre nom. Eh bien, si on sonde un panel représentatif de Français sur ces questions, on trouve un niveau d'accord particulièrement faible, rien que sur la question de l'usage des impôts. Vous avez simplement 51% des Français qui s'opposent en partie ou totalement à ce que ces impôts financent l'armement nucléaire, contre 20% qui sont en faveur de ça. Le détail, si vous voulez, le détail des chiffres est dans le livre,
mais
le propos, c'est que si on prend ces, ne serait-ce que ces deux critères, on a un taux de soutien qui est de l'ordre de 15%. Donc oui, on peut pas parler de consensus. Par contre, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que un effet de cette politique qui est intéressant et qu'on peut observer dès qu'on distingue les types d'attitudes, c'est que on a produit un désengagement de la population. Ce que la population nous dit, c'est elle n'a pas un sentiment de légitimité et elle n'a pas un sentiment que sa voix va porter sur ces sujets. Donc, plutôt que du consensus, c'est du désengagement.
Une fois encore, dans le livre, on trouvera beaucoup de détails justement sur ces idées-là. On est avec vous, Benoît Pelopidas, dans cette nouvelle série, consacrée au nouvel âge nucléaire. On parle ce matin de l'Europe et de ce tabou de la dissuasion. Au-delà des questionnements sur les impensés de la dissuasion nucléaire et sur sa compatibilité avec des régimes démocratiques, le vieux continent peine à s'exprimer d'une seule voix sur la question de la dissuasion nucléaire et plus largement sur la question militaire. Si Bruxelles a pour la première fois décidé de livrer des armes, on l'a vu à l'Ukraine ce dimanche, la défense reste un angle mort de la construction européenne. Aux grandes dames de la France qui tente depuis des décennies de faire de sa puissance nucléaire la clé de voûte d'une autonomie stratégique européenne. C'est d'ailleurs ce qu'avait tenté Emmanuel Macron une nouvelle fois en février 2020.
Nos forces nucléaires jouent un rôle dissuasif propre, notamment en Europe. Elles renforcent la sécurité de l'Europe par leur existence même et à cet égard ont une dimension authentiquement européenne. Notre indépendance de décision est pleinement compatible avec une solidarité inébranlable à l'égard de nos partenaires européens. Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Voilà, extrait du discours d'Emmanuel Macron à l'école de guerre en février 2020, au cours duquel le chef de l'État affirmait que la capacité de dissuasion nucléaire française bénéficiait au pays, évidemment, mais aussi à toute l'Europe. Bonjour Nicole Niesoto.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, politiste, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez signé très récemment « Europe, changer ou périr » chez Talendier. Comment les Européens, Nicole Niesoto, avaient réagi à ce discours d'Emmanuel Macron? Et plus généralement, est-ce que vous diriez que nos partenaires sont intéressés à l'idée d'être associés aux capacités nucléaires de la France?
Non, pas du tout. Ils ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas en entendre parler, et donc ils n'avaient pas réagi à la proposition d'Emmanuel Macron de 2020, qui n'était pas la première d'ailleurs. Hein. Jacques Chirac, en 96, avait proposé aussi l'idée de parler d'une, je cite, « dissuasion concertée ». Nicolas Sarkozy, en 2008, dans son grand discours aux armées, avait repris la proposition d'une discussion européenne sur la dissuasion, et Emmanuel Macron l'a réitéré en 2020. Mais à chaque fois, c'est silence radio. Nos partenaires ne veulent surtout pas ouvrir ce débat, pour deux raisons d'ailleurs. La première, c'est qu'ils sont divisés eux-mêmes sur la nécessité ou l'immoralité de l'arme nucléaire. Et la deuxième raison, c'est que s'ils doivent accepter une dissuasion nucléaire élargie de la part de quelqu'un d'autre, eh bien, ils préfèrent mille fois faire confiance à la dissuasion élargie américaine qu'à une éventuelle dissuasion française ou franco-britannique, parce que ça, ça devrait aller ensemble.
Mais Nicole Niesoto, comme on le voit depuis plusieurs jours, le monde est en train de changer. Il a d'ailleurs peut-être même changé, on a beaucoup souligné ces derniers jours, la rupture très importante qui est en train de s'opérer au sein de l'Union européenne et peut-être particulièrement du côté de Berlin, où on a décidé d'envoyer des armes aux Ukrainiens pour se défendre contre l'offensive russe, rompant ainsi avec la position allemande depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous diriez qu'en effet, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, que les digues ont lâché en Allemagne et que, enfin, si je puis dire, on est prêt à renouer avec une logique plus offensive dans le domaine militaire et peut-être, pourquoi pas, s'associer à la capacité nucléaire française?
Alors, je crois qu'il ne faut pas aller plus vite que les Allemands. C'est très bien que l'Allemagne comprenne, et en particulier le SPD et les Verts, qui sont une grosse partie de la coalition, comprennent que l'Allemagne ne peut pas rester ad vitam aeternam dans une logique de un peu de Montesquieu, c'est-à-dire le commerce et le dialogue adoucit les mœurs et tout ça suffit, on n'a pas besoin de s'armer. Donc ça, c'est très très bien. De là à dire que l'Allemagne est prête à partager, enfin à discuter nucléaire avec son voisin français, c'est un pas que moi, en tout cas, je ne vais pas franchir. Si l'Allemagne devait évoluer sur la question du nucléaire, je crois qu'elle commencerait par évoluer sur le nucléaire civil, parce que les Allemands se sont rendus compte aussi à quel point ils étaient dépendants de la Russie sur le plan du gaz, et que donc, en dépit de leur conviction environnementale, les Verts, certains Verts ont déjà déclaré que peut-être, en tout cas, il n'y aurait pas d'idéologie sur le nucléaire civil. Et ça, ce serait bien, me semble-t-il, bien avant la dissuasion nucléaire, qui, pour l'Allemagne, reste fournie par la dissuasion élargie américaine sur les pays de l'OTAN.
Ouais. Nicole Niesoto, pour poursuivre un petit peu, parce que parfois en matière de défense, il peut y avoir une différence entre la manière dont nous analysons les choses ici depuis Paris et la manière dont nos partenaires européens voient la chose. Ça fait des années qu'on parle d'Europe de la défense, qu'on peine à voir émerger, et en effet, on se rend compte combien en réalité Paris est assez isolé dans la construction de cette Europe de la défense et la manière dont on l'envisage. On comprend bien qu'en réalité, nos partenaires, eux, comptent davantage sur les États-Unis que sur une Europe de la défense. Sur la question du nucléaire en particulier, Nicole Niesoto, parce que vous entendiez tout à l'heure Emmanuel Macron, ce qu'il dit, c'est que le nucléaire français profite au fond à la défense européenne de façon générale. Si on décentre les choses et qu'on se place dans les autres capitales européennes, est-ce qu'en effet, il y a cette idée que la France permet à tous ses partenaires européens de bénéficier de son parapluie nucléaire? Est-ce que cette idée, elle est partagée par nos partenaires?
Alors, cette idée, je ne sais pas si elle est sincèrement partagée par nos partenaires, mais elle fait partie du credo atlantique. Au sein de l'OTAN, une déclaration a été signée par tous les pays membres en 1974. Ça s'appelle la Déclaration d'Ottawa, dans laquelle les plus hautes autorités de l'OTAN, donc y compris américaines et allemandes et autres, reconnaissent que les forces de dissuasion françaises et britanniques, je cite, participe à la dissuasion d'ensemble de l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'elle complique le calcul de l'adversaire. En l'occurrence, ce serait aujourd'hui la Russie. Comme la Russie a devant elle 300 possibles de décisions nucléaires, les Américains, les Britanniques et les Français, ça complique le jeu des Russes. Et en ce sens, la dissuasion française renforce la dissuasion générale. Donc ça, c'est une position officielle de l'OTAN. Mais vous avez raison, en dépit de cette déclaration commune, les Européens sont très partagés sur le nucléaire. Je crois que s'il y a un point sur lequel la défense européenne n'est pas prête de se construire, c'est sur cette affaire de la dissuasion nucléaire. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut distinguer les États, il faut distinguer le statut des États et l'opinion des États. Dans le statut, il y a les États dotés, en l'occurrence, il n'y a que la France aujourd'hui dans l'Union européenne, même si la Grande-Bretagne est toujours dotée, comme on dit dans le langage des Nations unies, et les États non dotés, c'est-à-dire tous les autres. Mais dans les États non dotés, il y a des pays de l'OTAN dont le territoire accueille des dépôts d'armes nucléaires américaines, qui sont gérées par les Américains et sur lesquels les pays hôtes n'ont pas de pouvoir de décision. Et il y a beaucoup de pays comme ça, il y a notamment l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, la Belgique, qui ont des dépôts d'armes de l'OTAN nucléaires sur leur territoire. Donc ça, c'est une première chose. Ça ne veut pas dire que leurs opinions sont pro-nucléaires, même peut-être le contraire. On a vu déjà dans les années 80, dans la grande guerre des euromissiles, que les opinions allemandes, italiennes, britanniques, néerlandaises étaient dans la rue contre l'idée d'installation de nouveaux missiles nucléaires américains en Europe. Mais donc, ça c'est la question des statuts, les dotés et les hôtes. Et puis dans les opinions, alors il y a des gouvernements qui sont foncièrement, profondément, de façon militante, anti-nucléaire et qui prennent la tête de tous les combats pour l'abolition de l'arme nucléaire, en particulier la Suède, la Finlande, l'Autriche et un peu l'Irlande, qui sont des pays totalement anti-nucléaires et qui prennent toujours position contre la France et la Grande-Bretagne à l'ONU sur ces questions-là. Donc, les gouvernements anti-nucléaires. Et puis, il y a des opinions, comme je le disais, qui sont, à mon avis, globalement hostiles à l'arme nucléaire, même si ce débat a disparu de la scène publique depuis 86, depuis la grande affaire, dont les missiles et des creuses.
C'est parfaitement clair, c'est même limpide. Benoît Pelopidas, peut-être une petite réaction, si vous le voulez bien, parce qu'on va ensuite enchaîner avec un nouvel invité, mais je voudrais avoir votre avis. On a beaucoup évoqué ces derniers jours cette unité européenne, peut-être assez nouvelle, face à cette guerre en Ukraine. Sur la question de la dissuasion nucléaire, on a encore un continent fracturé, hein. Clairement, Benoît Pelopidas.
Oui, oui, absolument. Et j'en profite juste pour appuyer ce qu'a dit Madame Nisotto sur deux aspects. C'est-à-dire que la proposition française d'élargir l'usage de ces armes nucléaires pour le bien de l'Union européenne, enfin, ou de la communauté européenne même avant, c'est une proposition dont on a trace dans chaque décennie de l'intégration européenne, même depuis la fin des années 50, sauf les années 70. Et c'est une proposition qui systématiquement ne trouve pas preneur. Donc c'est exactement ce que Madame Nisotto disait. Et ça se double, en fait, dans les opinions publiques, les sondages que mon équipe a conduits dans les cinq États hôtes et en fait manifestent ce même manque d'appétence pour un parapluie nucléaire français.
Merci beaucoup, Nicole Nisotto, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes autrice notamment de « Europe, changer ou périr », c'était chez Talendier. Ce rapport européen ambivalent au nucléaire militaire sur le plan stratégique prend racine dans l'histoire intellectuelle du continent. De Gunther Anders à Jean-Pierre Dupuis, en passant par Hans Jonas, depuis août 45, nombre de penseurs ont théorisé les changements de rapport à la science, à la technologie et au monde qu'a induit la bombe atomique. On va revenir justement sur cette histoire intellectuelle européenne et sur peut-être la manière dont aujourd'hui elle se retrouve bouleversée.
Je me souviens de notre première réponse à la question « Que pensent les scientifiques lorsqu'ils disent qu'ils n'ont pas tous le même avis sur le sujet ?» Certains espéraient que cet instrument ne serait jamais utilisé pour faire la guerre et surtout qu'on ne serait pas les premiers à en faire usage. D'autres espéraient que la bombe mettrait un terme à la guerre, qu'elle sauverait un nombre considérable de vies en arrêtant la boucherie qui durait depuis de nombreuses années.
Voilà, Robert Oppenheimer, pardon, physicien américain, qui avait dirigé le programme américain qui avait abouti à la mise au point des premières bombes atomiques, se remémorant, on est en 1965, les interrogations des scientifiques concernant les risques inhérents à cette nouvelle technologie. À l'époque, cette bombe représentait l'espoir d'arrêter la guerre au plus vite, mais aussi introduisait une nouvelle réalité, celle où l'homme a dans les mains l'outil qui peut conduire à sa propre disparition. Bonjour Frédéric Lemarchand.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Caen-Normandie, directeur du Centre de recherche des vulnérabilités. Vous avez beaucoup réfléchi autour de cette histoire intellectuelle européenne chez des penseurs comme Gunther Anders, que j'évoquais, ou même Jean-Pierre Dupuis. La construction de la bombe, elle est nécessairement passée par un moment où il a fallu faire fi de la conscience morale. Il n'en demeure pas moins que dès lors qu'elle était une réalité, cette bombe, on avait aussi conscience que on avait entre nos mains l'objet de notre destruction, et donc il fallait absolument remettre cette conscience morale au centre du jeu, en particulier pour nos responsables politiques, pour éviter bien sûr la catastrophe. C'est des propos qu'on va retrouver chez Gunther Anders dans l'obsolescence de l'homme en 56, mais aussi plus récemment chez Jean-Pierre Dupuis dans son catastrophisme éclairé. Aujourd'hui, quand on regarde les choses, Frédéric Lemarchand, on a l'impression précisément que cette dimension morale, elle est totalement ignorée par un Vladimir Poutine, qui n'hésite pas à menacer d'utiliser la bombe, de remettre la main sur l'Ukraine, quoi qu'il en coûte d'une certaine manière, y compris si ça doit se faire au prix de la destruction de l'humanité. On a une forme d'irrationalité, on en a beaucoup parlé, réelle ou supposée d'ailleurs, de nos dirigeants et en particulier de Vladimir Poutine, qui peut-être fait émerger un nouveau catastrophisme, Frédéric Lemarchand.
Oui, alors il me semble que Vladimir Poutine nous révèle, malgré lui, j'allais dire, hein, et un peu à notre insu, la faiblesse de nos dispositions intellectuelles à l'égard de la technique. Vous disiez qu'effectivement, la question morale a été d'une certaine manière évacuée de la fabrication et du processus qui a abouti en 1945 à la fabrication de la bombe. C'est un processus technique, et cette question qui se pose à l'égard de la bombe se pose aussi à l'égard d'autres enjeux, j'allais dire, de menaces qui pèsent sur l'humanité, hein, du changement climatique au transhumanisme. Pour revenir donc à la bombe, elle a été donc produite par un ensemble d'organisations extrêmement méticuleuses, mais qui ont évacué effectivement la pensée des fins. Mmh. Et on est notamment à partir de 1945 dans une époque qui caractérise le second XXe siècle, où l'on va produire une sorte d'accélération dans les domaines techniques, dans tous les domaines. Et encore, je cite aujourd'hui ces recherches qui touchent à l'humain, à la biologie, à la génétique, qui posent aussi des questions fondamentales. Et qui sont ces questions qui existent, que la bombe a révélées en 1945, mais que nous continuons finalement d'ignorer, à part évidemment la philosophie, mais la science a divorcé de la philosophie malheureusement il y a longtemps, et donc la conscience morale est restée du côté des humanités pendant que le monde continue d'accélérer. Et aujourd'hui, évidemment, Jean-Pierre Dupuy nous a montré le caractère, très, très précaire, voire... le caractère d'erreur des jugements qui ont été portés sur la capacité de dissuasion, sur la bombe atomique comme arme de paix, etc., puisqu'on est passé effectivement plusieurs fois tout près de la catastrophe finale. Et donc aujourd'hui, ce que révèle Poutine, effectivement, c'est que nos théories, nos modèles intellectuels qui ont servi de construction à cet équilibre de la terreur, hein, géostratégique pendant 70 ans, sont finalement complètement caduques.
Mmh. Il y a une autre chose qui est frappante, Frédéric Lemarchand, vous l'avez un peu évoqué, c'est que cette guerre en Ukraine et ces menaces de Poutine, elles ont remis le monde en face de cette possibilité, celle d'une guerre nucléaire. On sait pourtant bien que cette perspective, elle est possible. À partir du moment où on a des pays qui sont nucléarisés, on sait que c'est possible. Mais force est de constater que tout se passe comme si nous redécouvrions collectivement ce risque. Que vous inspire cette sidération collective sur un événement qu'on sait pourtant possible ?
Alors moi, je pense qu'une partie du monde, et pendant longtemps, s'est enfermée, encore une fois, dans une doctrine qui est un régime de croyance, qui pourtant, dès le 7 août, avait été remis en cause par Albert Camus, hein, le lendemain de l'explosion d'Hiroshima. Camus nous dit, on vient d'atteindre un degré de sauvagerie absolument inédit, il va falloir choisir entre le suicide collectif et choisir dans nos productions technoscientifiques ce que l'on choisit donc de garder ou pas. Et ensuite, effectivement, Günther Anders a révélé la fragilité de la conception qu'on a de la dissuasion, avec cette idée que la réponse graduée renverse en quelque sorte la fin et la fin et les moyens. Et aujourd'hui, je pense que un Vladimir Poutine qui n'entre pas dans les cases, qui n'entre pas dans les scénarios qui étaient donc produits par des effets, on pourrait dire, un peu systémiques. Oui. Puisque cet équilibre-là est un équilibre systémique, Poutine ne joue plus le jeu, sort des sentiers battus et nous place devant effectivement la faiblesse de nos analyses et de nos régimes de croyance. Donc la question est de savoir aujourd'hui s'il est seul à décider, si autour de lui il y a des pare-feux ou des garde-fous, mais il est vrai que depuis toutes ces années où l'on a produit ce discours, encore une fois, qui est un discours de rassurance, qui fonctionne sur cette idée qu'on ne peut pas utiliser la bombe puisque l'utilisant on s'auto-détruit. Je rappelle hein, une phrase qui est de temps en temps citée par mon ami Galia Ackerman au sujet de Poutine. Il évoque dans différents entretiens la possibilité d'une apocalypse nucléaire en disant « bien nous les Russes on ira en paradis et les Occidentaux en enfer ». C'est-à-dire qu'il assume pleinement cette idée apocalyptique, hein, d'assumer en quelque sorte cette fin du monde, en tout cas dans son discours délirant. Donc la question aujourd'hui qui se pose est de savoir quel est le degré de rationalité qui est celui d'un homme comme lui, sachant que la doctrine, encore une fois, qui a été établie, supposait un niveau de rationalité, donc d'entendement, de raisonnement suffisant de toutes les parties pour que l'équilibre fonctionne. Donc c'est bien un système qui a été mis en place, et quand un élément du système défaille, c'est tout le système finalement qui défaille.
Tout dernier point, Frédéric Lemarchand. Il y a une autre question qui se pose aujourd'hui au monde, compte tenu de ce que vous avez rappelé sur Vladimir Poutine, c'est est-ce qu'il faut, je le dis de façon un peu simpliste, mais est-ce qu'il faut se réarmer pour se protéger et dissuader l'ennemi de nous attaquer? Ou au contraire, éviter la surenchère, attendre que les choses s'apaisent, essayer de travailler à désarmer le monde, à trouver des accords permettant de limiter le nombre de bombes nucléaires? Comment les philosophes sur lesquels vous avez travaillé, les mieux à même de gouverner la cité, hein, selon Platon, peuvent nous éclairer pour répondre à cette question? Est-ce qu'ils ont des clés de compréhension sur cette question?
Moi, je pense qu'il faut raisonnablement et rationnellement n'évacuer aucune possibilité. Encore une fois, le scénario qu'on a, sur lequel on a basé nos croyances, évacuer finalement la possibilité d'une guerre finale, totale. Donc cette éventualité doit être envisagée avec évidemment toutes les gradations et tous les usages des armes tactiques, stratégiques. Enfin, il faut évaluer de manière très pragmatique.
C'est ce que vous pensez, ou c'est ce que nous diraient des Gunther Anders ou des Jean-Pierre Dupuy?
Moi, je pense qu'il nous dirait, au fond, de ne pas pécher par omission ou par orgueil ou par optimisme. Enfin, voilà les mots qu'ils ont utilisés. Hein. Anders nous disait, au fond, ou en Sionas, dans le principe responsabilité, notre pire, problème, ce serait de pécher par excès d'optimisme. Nous nous devons d'opter pour un pessimisme méthodologique, c'est-à-dire de partir de l'hypothèse du pire. Et à partir de cette hypothèse, de construire des préceptes moraux, on les retrouve chez Anders et chez Jonas, hein, qui sont du type « ne possède que des outils qui ne permettent de garantir la survie de l'espèce humaine, etc. Mmh. » Donc la question qui se pose aujourd'hui, elle s'est posée à l'égard des armes chimiques, c'est celle effectivement de l'interdiction mondiale de l'arme atomique. Et ça, c'est une question complexe, parce que pour en sortir, il faut que toutes les parties prenantes accepte la même règle.
Merci beaucoup, Frédéric Lemarchand. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Un grand merci de nous avoir éclairé. Grand merci également à Benoît Pelopidas, qui était avec nous depuis Reims, qui nous a éclairé depuis une heure presque maintenant sur ce tabou de la dissuasion. J'invite vraiment les auditeurs à se plonger dans ce livre « Repenser les choix nucléaires » aux éditions Sciences Po. C'est un livre vraiment assez différent, j'allais dire un vrai pas de côté, qui nous fait remettre à plat toutes nos idées reçues sur la question du nucléaire. Il faut le lire, en tout cas. Merci beaucoup, Benoît Pelopidas, d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, on retrouvera Maïlys Bessery et La Grande Tame. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
La revue de presse internationale, Camille Magnard.
Et une presse internationale, Camille, qui s'alarme du durcissement de l'offensive russe contre l'Ukraine.
Une intensification des opérations militaires, oui, résumée par une image et par une ville, Kharkiv, on va y venir. Mais l'image d'abord qui saute aux yeux quand on ouvre la plupart des sites des grands journaux étrangers, c'est celle prise depuis un satellite américain d'une colonne de blindés russes qui avance vers Kiev par le nord-ouest depuis la frontière biélorusse. Pas n'importe quelle colonne, constate The Guardian, puisque le convoi militaire s'étendrait sur 60 km avec parfois 3 véhicules de front. La société d'imagerie satellite Maxar, qui a publié ces clichés, indiquait qu'un peu plus tôt dans la journée de lundi, le même convoi ne mesurait que 27 km de long, la preuve que la Russie est en train de masser beaucoup de troupes et de canons à une vingtaine de kilomètres seulement du centre de Kiev. Au sixième jour de la guerre, l'heure ne semble donc plus aux attaques éclairs menées par des véhicules isolés, envoyés en première ligne pour percer, sans succès, on le sait, les défenses ukrainiennes. Face aux déconvenues et à la frustration des premiers jours, Moscou s'apprête, selon le quotidien allemand Die Welt, à lancer la seconde phase de son assaut, une nouvelle tentative de percée militaire vers la capitale ukrainienne, mais cette fois avec une force de frappe beaucoup plus massive et des soutiens logistiques derrière la ligne de front qui pourraient permettre à l'armée russe de tenir le siège pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La guerre est entrée dans une nouvelle phase, confirme The Economist, et désormais plus aucune illusion n'est possible sur le fait que les Russes visent et tuent bien des cibles civiles, contrairement à ce que Vladimir Poutine assurait hier encore au téléphone avec Emmanuel Macron. Pour preuve, il suffit de regarder les images du pilonnage de quartiers résidentiels pendant des heures hier de la ville de Kharkiv, la seconde plus grosse du pays. On dénombre au bas mot 11 civils tués. Si les frappes russes jusque-là évitaient les quartiers les plus peuplés pour se concentrer sur des cibles militaires, eh bien la donne a changé pour le pire à Kharkiv, explique le New York Times. Bien sûr, ce ne sont pas encore les tapis de bombes que les Russes avaient fait tomber sur Grozny en 2014, en Tchétchénie en 1999 ou plus récemment sur Alep en Syrie en 2016. Mais c'est bien là la menace qui est contenue dans cette montée en puissance de l'artillerie et des forces aériennes utilisées pour la première fois sur des civils hier à Kharkiv. Bien plus que de faire tomber la ville sous contrôle russe, il s'agit de semer la terreur et de faire pression bien sûr sur les négociations qui ont péniblement débuté ce lundi sans donner pour le moment aucun résultat probant.
Et dans le même registre, hein, Camille, l'Ukraine accuse l'armée russe de violer le droit international.
Oui, la presse ukrainienne, à l'image du quotidien Sohodny, évoque, et c'est une première depuis le début de la guerre, d'importantes pertes militaires. Dans la petite ville de Ortirka, au nord-ouest de Kharkiv, on a préparé 70 nouvelles places au cimetière pour y enterrer les 70 soldats, là encore c'est une estimation basse, tués dans le bombardement de leurs casernes. Les Russes auraient utilisé des armes thermobariques, un type de bombe particulièrement destructeur qui combine explosion, onde de choc et effet de dépression ensuite pour causer un maximum de dégâts sur les installations militaires et sur les hommes aussi. Selon les experts en stratégie, c'est le niveau juste avant l'arme nucléaire en termes de létalité. Des journalistes avaient bien repéré avec effroi ces derniers jours sur les routes ukrainiennes l'énorme camion qui transporte le lance-roquettes la tête thermobarique TOS-1, mais jamais jusque-là on avait eu la preuve qu'il avait été utilisé dans ce conflit. C'est apparemment chose faite à Ortirka, en tout cas selon les autorités ukrainiennes. Et tout comme les civils bombardés à Kharkiv, ça pose la question des violations de la Convention de Genève par la Russie. D'après le spécialiste de droit international anglais, bien connu des auditeurs de France Culture pour sa série de podcasts La Filière, Philippe Sands, qui signe une tribune dans le Financial Times, où il affirme que ce que l'on a vu ces derniers jours autour des villes ukrainiennes relève bien des crimes de guerre ou même crimes contre l'humanité qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Or, professe Philippe Sands, la Russie reconnaît cette compétence et la CPI pourrait donc inculper in fine Vladimir Poutine. C'est ni plus ni moins, remarque le site d'info Ukrainska Pravda, que ce qu'évoquait ce lundi le président Volodymyr Zelensky quand il jurait de traîner la Russie devant un tribunal international pour les civils bombardés et tués à Kharkiv. Et le procureur de la CPI, Karim Khan, a fait un pas dans cette direction lui aussi hier.
Et puis enfin, des craintes à présent de voir cette guerre se décliner dans l'espace ?
De nombreux médias, c'est vrai, se posent la question de comment on vit le conflit et la mise au ban de la Russie à bord de la Station Spatiale Internationale où cohabitent en ce moment deux cosmonautes russes avec cinq collègues occidentaux. Eh bien, ce que l'on en sait, d'après la revue spécialisée américaine Ars Technica, c'est que la NASA suit de très près le conflit. Et même si le programme de coopération sur l'ISS n'a pas été spécifiquement touché par les sanctions, l'agence américaine réfléchit très concrètement à comment elle pourrait réorganiser la gestion de l'ISS pour ne pas que les tensions diplomatiques puissent mettre en danger la sécurité du programme spatial et surtout de ses participants. Il faut dire, avec le New York Post, que jeudi dernier, le directeur de l'agence spatiale russe, Dmitri Rogozin, avait semé la panique en lançant une série de messages très virulents sur Twitter, où il expliquait que ce serait quand même dommage si la station spatiale s'écrasait sur la Terre parce qu'une rupture de la coopération avec les Russes aurait rendu son maintien en orbite impossible. La menace était claire, surtout que Rogozin ajoutait que l'ISS ne passe pas au-dessus de la Russie, mais principalement au-dessus de l'Amérique, de l'Europe, de l'Inde et de la Chine. Il n'en fallait pas plus pour que le site d'India Today publie immédiatement une vidéo bien alarmiste annonçant que les Russes allaient peut-être faire tomber la station de 400 km de haut sur la tête des Indiens. Mais le magazine américain Time se veut, lui, rassurant. Il rappelle que c'est loin d'être la première fois que la Russie fait ce genre de menace, sans jamais la mettre à exécution. L'espace, nous dit-on, reste la dernière zone de non-agression où domine encore le professionnalisme des scientifiques, quelle que soit leur nationalité. Pourvu que ça dure, à se demander si le prochain round de négociations entre Kiev et Moscou ne devrait pas se dérouler, justement, à bord de la Station Spatiale Internationale.
Merci beaucoup Camille pour cette revue de presse internationale qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain matin chez Guillaume Erner et quelques heures plus tard dans Culture Monde. Dans un très court instant, c'est Maïlys Besseri et La Grande Table.